Voilà.
Amen, merci. J'ai combien de temps à dispo?
Oh, jusqu'à 2 heures?
Non,
non,
sûrement pas. Ce serait
quand
pas...
je me lèverai, ça voudra dire que
ce sera pas bien.
Il n'y a plus que 10 minutes.
Non. Alors tout d'abord, j'aimerais saluer celles et ceux que je n'ai pas salués. J'ai eu l'occasion déjà de voir des visages connus. Ceux, entre autres, que j'ai rencontrés à Berne il y a quelques décennies. Vous voyez que nous ne sommes pas des tout jeunes. Et j'aimerais simplement dire un bonjour d'excellence. Ça veut dire quoi, d'excellence? Eh bien, ça veut dire de fraternité. Parce que finalement, nous sommes d'églises différentes, avec un petit « et » d'église, mais nous participons à la même grande église. Et ça me réjouit toujours de partager avec d'autres croyants ce que nous avons ensemble, ce lien en Jésus-Christ. C'est pas fini.
Je viens juste allumer pour toi.
Excuse. Merci. Excuse. Alors, j'ai donc choisi le psaume 22. J'aurais peut-être déjà dû dire auparavant que c'est essentiellement deux dames, à savoir Mimi et Viviane, qui m'ont presque instrumentalisé à venir à Villars, à l'église de Villars. Elles m'ont demandé 2-3 fois, puis j'ai dit, mais oui, pourquoi pas. Et puis elles ne sont pas là, c'est assez particulier, l'une et l'autre. Mais voilà. Je les connaissais dans la mesure où pendant 12 ans, j'étais à la Maison de la Bible, que j'ai présidée pendant 10 ans. Voilà, juste pour mettre les choses au point. Donc j'ai choisi le psaume 22 parmi les propositions que m'avait données Viviane, et je l'ai intitulé « Un joyau ». Alors tout à l'heure, nous ouvrirons l'écran qui contient le joyau, mais je me permettrai peut-être 2-3 remarques au préalable. Tout d'abord, j'aime bien rappeler qu'il y a des pages dans nos Bibles qui ont une solennité et une teneur qui ne peut pas nous laisser. Et on a chanté « Chef couvert de blessures ». C'est un genre de psaume, entre autres, qui ne peut pas nous laisser indifférents. Les blessures de celui qui s'appelle Jésus-Christ. Et j'aime bien rappeler au début d'une rencontre comme celle-là, toute la place que Jésus-Christ toujours et encore doit avoir. Il est comme le fil rouge de la Bible. D'un bout à l'autre, depuis Genèse 3:15 jusqu'à Apocalypse 22, vous avez ce fil rouge, Jésus-Christ. Et puisqu'il est permis, selon Jean-Luc, de citer un extérieur, je pensais maintenant à ce que disait Gustave Flaubert. Il avait eu cette belle parole, « Ce ne sont pas les perles qui font le collier, mais c'est le fil. » Et c'est vrai que la Bible, ce sont des perles dans ses 66 livres. Les 66 livres sont comme des perles, mais le fil, c'est Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. Et j'aime bien rappeler d'ailleurs à ce niveau-là, ou à cet égard-là, ce que Jésus-Christ lui-même a dit un jour. Il a dit en Jean 5, 39, « Sondez les Écritures. Pourquoi ? Parce qu'elles rendent témoignage de moi. » Et dans ce même chapitre de Jean 5, il va nous dire « Si vous ne croyez pas ce que Moïse a écrit, mais comment croirez-vous ce que je vous dis ?» Et puis j'aime bien citer toujours Luc 24, 27, « Et commençant, c'est donc Jésus-Christ qui parle et qui authentifie en quelque sorte l'Ancien Testament, quand il dit « Et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le regardent, Jésus-Christ. » Alors qu'il soit bien placé devant nous, tout spécialement avec ce psaume 22. Et il y a une expression que j'aime bien, et puis j'aimerais bien qu'on l'assimile avant d'entrer dans ce psaume. C'est une expression qu'on trouve dans la Bible, lorsque, à Gethsémané, il est dit que Jésus-Christ s'éloigna des disciples d'un jet de pierre. Et j'aime beaucoup cette expression d'un jet de pierre. Pourquoi ? Parce qu'un jet de pierre, c'est quelque chose qui est proche. selon la force de celui qui lance une pierre. Ça peut être 10, ça peut être 20, ça peut être 50 mètres, que sais-je. Mais ce qui est bien, si c'est près, en même temps, il y a une distance. Et Dieu veuille qu'avec ce psaume 22, nous nous approchions le plus possible de celui qui a vécu sur la croix et qui a vécu ses heures ténébreuses, ses heures infâmes sur la croix, que nous soyons près de lui, mais toujours en même temps avec toute la révérence qui convient à celui qui est le Fils de Dieu sur une croix. Il y a la distance, il y a la proximité. Eh bien, que Dieu m'aide, nous aide, et les uns et les autres, à avoir à la fois cette proximité et à la fois, peut-être même cette intimité, mais à la fois cette distance qui convient. Des pieds à quelque part, on a une expression qu'on peut consacrer, les pieds déchaussés. On s'approche d'un psaume qui va nous parler de Jésus-Christ sur la croix, Fils de Dieu. À noter aussi que tout l'Ancien Testament converge vers lui. C'est impressionnant, encore une fois. C'est impressionnant aussi que dans le Nouveau Testament, tout découle de lui. Tout converge vers lui dans l'Ancien Testament, tout découle de lui dans le Nouveau Testament. Il est vraiment la personne centrale de la parole de Dieu. Et qu'il y ait toujours, dans une prédication, qu'il y ait toujours à un moment donné la personne de Jésus-Christ annoncée, proclamée, et qu'elle soit surtout reçue dans les cœurs. Le génie du christianisme, disait quelqu'un, c'est de nouveau quelqu'un d'extérieur, puisque c'est permis, avait dit, le génie du christianisme, c'est l'incarnation. Mais j'ajouterais, c'est peut-être aussi la crucifixion et la résurrection. Et c'est ce qui va nous occuper avec ce psaume 22. Je l'ai résumé avec trois mots, parce que pour moi, on peut diviser ce psaume en trois parties. Chacun a sa façon de faire, et il y a d'autres méthodes. Chacun a sa méthode ou son approche. J'ai trois méthodes, j'ai trois points, et j'ai choisi trois mots pour diviser ce psaume, si vous permettez de le dire comme ça. Tout d'abord, finitude, c'est le premier mot, qui correspond aux 22 premiers versets où il y a vraiment les outrages de la croix. Un deuxième mot, c'est vraiment les certitudes, parce qu'on va voir qu'il y a quelque chose qui a changé totalement, la résurrection. Et puis, le troisième mot, c'est la plénitude, parce qu'on va toucher alors à ce qui est futur, à ce qui est de l'avenir. Finitude, certitude et plénitude. On va lire ce texte maintenant. Mais j'aurais bien aimé que quelqu'un le lise, c'est possible ça? Pour moi. Pas que ce soit tout moi qui fasse. Tu veux le lire, toi? Ça me rendrait service. Ou que quelqu'un d'autre? Je voudrais pas créer un. Je voudrais pas créer un problème, mais je trouverais très beau que.
Oui, et je lis depuis 1959 dans la version seconde, j'espère qu'elle aura votre agrément. mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi je suis en ver et non en homme. L'opprobre des hommes est le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel te sauvera. Il te délivrera puisqu'il t'aime. Oui, Tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent, ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le, vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face. Mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne, appartient. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Amen.
Amen. Merci, Jean-Luc. Bien, oui, j'aimerais mettre justement la force sur toute la beauté de ce texte, toute la profondeur de ce texte, toute la solennité de ce texte. Et encore une fois, approchons-le avec ce jet de pierre qui nous tient le plus près possible, mais en même temps à distance. Nous sommes des êtres finis face à l'être infini. Et il est bien digne de recevoir toute notre louange et adoration comme on l'a fait par ce chef couvert de blessures. On pourrait résumer ce psaume d'ailleurs par un autre verset d'un autre psaume, je pense au verset 6 du 126, qui nous dit « Il va en pleurant, portant la semence qu'il répand. Il revient avec chant de joie, portant ses gerbes. » Mais c'est ce que nous allons voir dans ce psaume. Il va y avoir, oui, il va y avoir des souffrances, mais il va y avoir les conséquences de ces souffrances avec une ouverture sur les effluves du ciel, les effluves de la grâce de Dieu. Et nous voulons nous réjouir à travers les souffrances que nous allons évoquer, nous allons nous réjouir de ce qu'il y a eu une issue, des conséquences qui nous ont ouvert précisément les effluves de la grâce du ciel. Quelques mots d'abord peut-être sur David. David qui a écrit 73 psaumes, un personnage important dans la parole de Dieu Il occupe quelques 60 chapitres. On peut noter en passant que Christ dans les évangiles ou par les évangiles occupe 89 chapitres. Et simplement pour montrer peut-être que quelqu'un annonce quelqu'un d'autre. Et je crois qu'on n'a pas besoin d'insister trop longtemps pour comprendre que David va bien au-delà de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent, de ce qu'il subit, et qu'il va parler de quelque chose qui le dépasse totalement. Et ça, c'est la beauté de la parole de Dieu. Je m'incline toujours devant la parole de Dieu qui peut nous annoncer 1000 ans à l'avance par un homme, comme vous et moi, un homme que Dieu a qualifié pour cela, qu'il a conduit, à qui il a insufflé. D'ailleurs, David va nous le dire. L'Esprit de l'Éternel a été sur moi, et les paroles que je prononce, elles viennent de lui. Il va nous dire cela dans le livre de l'Ancien Testament, je ne me rappelle plus lequel. Bref, voilà, un homme conduit par Dieu pour aller au-delà de ce qu'il vit lui-même. C'est aussi toute la beauté d'une autre page de la parole de Dieu, Ésaïe 53. Quand on lit Ésaïe 700 ans à l'avance, qui nous dit des choses qu'il voit comme si elles étaient déjà passées. On a appelé ça le passé prophétique. Mais je veux pas, on m'a dit de pas prendre un patois de Canaan. Et c'est vrai, Ésaïe raconte des choses qu'il voit comme s'il les avait vécues. Et c'est ce que nous voyons aussi à travers David. Comment peut-il d'ailleurs venir avec ce premier verset ou ce deuxième verset, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On comprend tout de suite, en entrant dans ce psaume, qu'il va bien au-delà de lui-même. Aux trois mots que j'ai donnés, finitude, certitude et plénitude, j'ajouterais peut-être que, à l'instar de quelqu'un qui avait dit, on a dans ce psaume comme les trois phases d'une journée. C'est vrai, il y a la nuit, il y a l'aurore, et ça me plaît beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on voit que l'introduction de ce psaume nous parle de la biche de l'aurore. Il y a la nuit, il y a l'aurore, et il y a le plein jour. Et je crois que c'est très évocateur et parlant. Cette biche de l'aurore, c'est quoi une biche de l'aurore ? Moi, je me représente ça, c'est la nuit qui s'éloigne, il y a l'aube qui descend sur la terre, il y a de la rosée, et voilà que cette biche, elle est sortie de son nid ou de son lieu de sommeil, et puis elle vient pour brouter, c'est le jour qui s'annonce. Et je trouve très beau que l'introduction de ce psaume nous parle de la biche de l'aurore. C'est pourquoi j'aime bien parler de ces trois phases d'une journée, infinitude, certitude et plénitude. Il y a la nuit, mais il va y avoir l'aurore. Et l'aurore est annonciatrice d'une résurrection. C'est clairement dit, j'y viendrai tout à l'heure. Vous comprendrez que je ne vais pas apprendre verset par verset, je vais rappeler quelques versets qui se rapprochent bien sûr de ce qu'on va trouver dans les évangiles et qui nous montrent une fois de plus que la parole de Dieu se tient, qu'elle est bien un fil, qu'il y a bien une seule histoire d'un bout à l'autre. Et puisque dans le psaume nous allons apprendre des choses que nous allons découvrir dans la réalité, dans le Nouveau Testament. Encore une fois, c'est toute la beauté, c'est toute la force, c'est toute la substance de la parole de Dieu. C'est aussi toute la beauté du christianisme. Pourquoi ? Parce que c'est la seule religion où nous avons affaire avec quelqu'un qui est vivant. Quelqu'un qui peut nous dire, moi je suis vivant, et parce que je suis vivant, vous, vous vivrez aussi. Je cite là Jean 14. C'est toute la force de la beauté, encore une fois, et de la Bible, et de la parole de Dieu, et du christianisme. J'ai dit quelques mots sur cette biche de l'aurore. Et pour moi, elle a son importance pour bien situer, oui, il y a la nuit, il y a l'aurore, et puis il y a le plein jour. Nous entrons maintenant dans l'écrin, si je peux dire, où nous ouvrons l'écrin qui contient ce joyau, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et je crois que nous avons à nous arrêter, sans trop d'explications, mais nous arrêter devant ce cri qui a retenti dans Matthieu 27, mais qui est déjà annoncé à l'avance. Et non, ne nous étonnons pas que Christ ait employé exactement les mêmes mots dans la langue originelle. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Quel pourquoi ? Question, pourquoi ? J'y viendrai tout à l'heure, parce qu'au-delà de mes trois points, j'ai choisi encore un quatrième qui sera ma conclusion, et je vais peut-être vous étonner, j'ai pris le logo de la coop qui dit « c'est pour moi et pour toi ». Et je crois qu'il y a toujours, dans la parole de Dieu, il y a toujours quelque chose de pratique à prendre. Quelqu'un disait, si simplement, en disant un texte, on n'entre pas vers la personne de Jésus-Christ à un moment donné, s'il n'y a pas quelque chose aussi qui me touche dans ce qui fait ma vie, dans ce qui fait mes quotidiens, avec ses hauts, avec ses bas, il manque quelque chose. Alors Dieu veuille, oui, qu'il y ait aussi ce côté pratique, ce sera ma conclusion, c'est pour moi et pour toi. Vous y penserez peut-être quand vous irez à la coop. Et je reviens à ce début du psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Christ, plusieurs fois, parlait de cette proximité avec son Père. On peut remarquer d'ailleurs que, avant la croix, il a toujours parlé du Père. Et après la croix, au moment où il peut dire « c'est accompli », il s'adresse au Père, « mon Père ». C'est assez remarquable. On sent vraiment là celui qui est abandonné totalement, qui le ressent, qui le vit, qui le subit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Si nous sommes la réponse, nous sommes certainement la réponse, à l'instar de plusieurs textes qui vont nous le montrer, et dans le Nouveau, mais comme déjà dans l'Ancien. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? On a un verset, je crois, dans les psaumes qui nous dit « Je n'ai jamais vu le juste abandonné ». Et voilà que le seul juste que la terre ait porté, Jésus-Christ, le seul juste doit dire à son Dieu « mon Dieu, pourquoi ? Pourquoi ?» Nous sommes la réponse, nous avons la réponse. Jean 3,16 nous disait déjà que ce Dieu, il a tellement aimé le monde qu'il voulait donner son Fils. Pourquoi ? Pour sauver quiconque. Ce désir toujours et encore qui va traverser la Bible aussi, le salut pour tous les hommes. Dieu est un Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, et pour cela, il nous a donné l'homme, Christ, Jésus. Il y a à la fois toute la grandeur et la beauté de celui qui est homme, et en même temps de celui qui reste Dieu. Mais voilà, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et alors, on retrouve ces textes, parce que je crois que c'était le désir de votre Église, c'est d'exprimer par ces psaumes messianiques la relation ou le parallèle qu'on peut faire avec le Nouveau Testament. Et je ne vais pas à chaque fois relire ce que le Nouveau Testament nous dit, dans la mesure où mon timing alors prendrait peut-être 2 heures ou 3 heures. Mais je vais simplement rappeler quelques textes qui sont interpellants, pour le moins. Notons bien, dans ce début du psaume 22, nous avons dans les premiers versets, nous avons les 3 heures sombres, là où Dieu a refusé sa lumière. C'est important de le souligner. Tous les versets jusqu'au verset 22, c'est vraiment la croix. Mais les premiers versets jusqu'au verset 7, je crois, on peut dire, ce sont vraiment les heures sombres. C'est la 9e heure, nous dira l'Évangile, où Jésus a eu ce cri terrible. Ce cri, mais qui n'était pas seulement un cri, qui était une parole ou des paroles. Et on sent là tout celui qui était relié à ce Dieu, à ce Père qui maintenant est abandonné. C'est touchant pour le moins, mais ça fait 6 heures que Jésus-Christ est là, suspendu entre terre et ciel. Et laissons-nous pénétrer par la solennité de ce rappel. Ça fait 6 heures que Jésus-Christ est entre ciel et terre, crucifié, des mains percées, les os qui se déjoignent. On va trouver ces textes là dans ces versets, jusqu'au verset 22. Suspendu entre terre et ciel. Et moi, si je suis élevé, pouvait-il dire, j'attirerai tous les hommes. Si moi je suis élevé, il le savait à l'avance. Et on peut essayer de se dire, ou de penser aux années où Jésus-Christ, où il ne nous est rien dit dans la parole, et où il a vécu ce poids, qui est constant jusqu'à sa mort, ce poids de savoir comment il allait mourir. Suspendu. Si moi je suis élevé de la terre, oui, je le serai pour attirer tous les hommes. Ce désir toujours et encore de sauver l'humanité, de nous sauver, de nous racheter, de nous libérer. Et nous avons besoin toujours de nous répéter des choses simples, mais qui nous amènent encore une fois dans l'adoration, dans la louange à qui de droit. Mon Dieu, je crie de jour et tu ne réponds pas. C'est le contraire à la nature de Dieu, le silence de Dieu. On voit partout dans la parole de Dieu, vous pouvez feuilleter vos Bibles, chaque fois qu'un homme, qu'une femme a crié vers Dieu, a demandé à Dieu, il y a une réponse. Dieu n'est pas le Dieu du silence. Dieu est un Dieu qui est sensible, sensible à la peine, à la difficulté, au poids de la vie. Et Dieu veut répondre. Dieu veut toujours répondre. Et on peut comprendre ce cri ou ce rappel à la fois déjà de David, dans sa finitude humaine, qui rejoint d'ailleurs la nôtre, j'y reviendrai, dans sa finitude humaine, eh bien oui, certainement que David, et plusieurs psaumes sont là et en témoignent, a vécu des moments difficiles, même tragiques, dramatiques à certains moments, et on sent cette finitude dans l'auteur de ce psaume. Mais encore une fois, nous cherchons bien sûr d'aller au-delà de la personne de David pour y voir celle de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et ben oui, ce cri, mon Dieu, je crie de jour et tu ne réponds pas. Pourtant, nous lisons par les évangiles que jamais Jésus-Christ a fait quelque chose de lui-même. Il le dit, je fais ce que le Père m'a dit de faire. Je fais ce que le Père m'enseigne, ce désir d'être toujours à l'écoute de son Père. Et voilà qu'il doit dire et reconnaître devant tous que Dieu ne répond pas. Et ça va être dans les versets qui suivent, et je peux penser que notre Seigneur a beaucoup souffert de l'opprobre et de la honte. On a un verset qui nous dit l'opprobre, c'est je crois dans le psaume 69, l'opprobre m'a brisé le cœur. Vous savez, d'être dévêtu sur une croix, crucifié, d'être dévêtu et d'être là en spectacle. On a le mot dans Luc 23, 48, sauf erreur, où il est dit que c'était un spectacle. Les foules étaient là comme un spectacle. Et pensez à celui qui était l'objet du spectacle, dans sa désolation, dans son opprobre, être dévêtu, ensanglanté, marqué par une couronne, marqué par le sang, et finalement défiguré par les coups. Et essayons encore une fois d'entrer dans toute la messianité de ce psaume qui va se révéler par l'évangile. Et si on relit Matthieu 27, pour ne citer que celui-là, nous y voyons vraiment la réalisation de ce que déjà nous lisons dans ce psaume 22, 1000 ans à l'avance, je le rappelle. Mais n'oublions jamais, je crois, d'entrer dans ce que l'opprobre a pu être pour notre Seigneur. Et puis, il y a peut-être encore quelque chose qu'on ne dit pas souvent, ce doit être terrible. D'entendre dire « il a écouté son Dieu, il a fait ce qu'il voulait, alors maintenant qu'il montre qu'il peut descendre de la croix, descendre de la croix, on le lui a dit, et quand vous avez la puissance de le faire, vous devez vous retenir de le faire. » Je peux m'imaginer que ça a été aussi un exercice pour notre Seigneur, parce qu'il aurait pu vraiment descendre, il aurait pu recevoir l'aide d'anges, il le dit lui-même, mais de sentir qu'on pourrait, mais comme de rien, descendre, mettre par terre tous ces gens qui sont là, foule, qui cherchent un spectacle. Mais voilà, il fallait aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et je crois que c'est toute la force et toute la valeur de ce psaume de nous le dire déjà sous la plume de David. Et de voir cet opprobre, de voir le verset « En toi se confiaient nos pères », ils se confièrent, marqué là, deux fois, ils se sont confiés. Et moi j'ai vécu avec toi, mon père, j'ai fait ce que tu voulais. Et maintenant, pas de réponse, parce que tu es Dieu, et moi je suis fait péché, et je dois ôter le péché du monde, et je dois le payer de ma vie, de mon sang. Et nous rejoignons un texte qui va nous dire « Tu es digne ». Tu es digne, c'est Apocalypse 5 qui va nous dire « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Pourquoi ? Parce que tu as été immolé et que tu as acheté par ton sang pour Dieu de toute tribu et langue et peuple et nation et que tu les as fait rois et sacrificateurs. » Remarquez cette puissance dans les mots qui apporte la louange à celui qui a tout accompli et qui a dû le subir. Et nous sommes là dans ce psaume 22, dans ces 22 premiers versets, nous sommes là dans ses souffrances, dans ce qu'il a vécu, plus encore dans ce qu'il a subi, dans ce qu'il a supporté, dans son être physique, mais dans son être aussi moral. Et ce serait intéressant d'aller dans les deux sens. Nous voyons souvent que si les évangiles nous parlent plutôt des fêtes que Jésus a accomplies, nous voyons que dans les psaumes, on va aller plus loin et parler de ses émotions, parler de ce qu'il a vécu dans son être intime, dans son être intérieur. Et c'est touchant de relire des psaumes où nous voyons, et c'est pour ça que ça donne beaucoup de poids aux psaumes messianiques, il y en a plusieurs, parce qu'on y touche là, dans l'être intime de celui qui a passé par ses souffrances. Je vais malheureusement passer sur certains textes, encore que j'aimerais bien dire quelques mots encore cités sur ce verset 19 où il est dit qu'il partage mes vêtements. Pourquoi je le cite ? C'est parce que les quatre évangiles vont le rappeler. Et il y a quelque chose de solennel quand on dévêtit quelqu'un. Parce que c'est presque déjà le maître parmi les morts, parmi celui qui n'est plus parmi les vivants. On l'a dévêtu, et puis on se partage. Et la Bible prend bien soin dans les quatre évangiles de nous le rappeler. Rappeler que il se partage mes vêtements, il me regarde, hein, le regard, hein, la honte de celui qui est dévêtu, de celui qui est marqué, marqué par les coups, marqué par le sang, marqué par les clous, marqué tout à l'heure par une épée encore. Tout cela, nous le trouvons et nous voulons passer un peu plus loin parce que, voilà. Au verset 22, nous avons, c'est lu, « Sauve-moi de la gueule du lion ». C'est assez remarquable de voir que Dieu, que celui qui s'exprime ici parle d'abord de l'épée ou du glaive, ensuite des chiens, et puis ensuite du lion. On peut penser qu'il y a une distinction ici. On pourrait voir dans l'épée que c'est Dieu qui frappe. On pourrait voir parmi ces chiens que c'est ces hommes et ces femmes qui sont là puis qui ont dit « crucifie-le, crucifie-le ». Et puis ce lion, il y a certainement Satan qui est toujours, pas toujours, mais en tout cas qui est typifié par le lion. Et c'est assez remarquable, on a parlé des chiens, on a parlé des taureaux de Bazan, on l'a lu en tout cas, de faire le contraste avec la biche, hein, la biche de l'aurore. Elle arrive maintenant au verset 22. Délivre-moi des cornes des buffles. Le verset 23 va passer à quelque chose de tout nouveau. Je publierai ton nom parmi mes frères. Ah ! Où est-ce que Jésus-Christ a pu dire cette phrase à Marie de Magdala ? Va vers mes frères, va vers mes frères et dis-leur la résurrection. Donc vous voyez qu'après la nuit, après les souffrances à la fois de celle de David, mais plus encore de celle de Jésus-Christ. Il y a quelque chose de fort qui nous est donné ici dans ce verset 23. « Je publierai ton nom parmi mes frères. » Il y a une résurrection. Là où il y avait la mort, là où il y avait aussi celui qui a payé de sa vie, il y a aussi la victoire. Et Jésus-Christ va pouvoir dire, j'aime beaucoup ce verset dans Apocalypse 1:18, quand il dit, j'ai été mort, mais je suis vivant au siècle des siècles, et c'est moi et personne d'autre qui tient les clés de la mort et du séjour de la mort. J'aime bien ce verset parce que, oui, j'ai été mort. Et plusieurs textes nous le rappellent. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, va nous dire « Je vous rappelle à nouveau ces choses. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et le troisième jour, il est ressuscité. » Le souci, toujours et encore, de rappeler « Oui, Jésus-Christ est mort et n'édulcorons jamais, entre autres spécialement dans ce moment de la scène. » Je ne sais pas si elle a lieu aujourd'hui, mais peu importe, n'édulcorons pas les souffrances de celui qui, sur la croix, a payé les 22 premiers versets de ce psaume, mais n'oublions pas qu'au-delà de la mort, il y a une victoire. Et je crois que cette victoire, c'est l'aurore. C'est l'aurore qui annonce qu'un jour se lève dans le psaume, non, dans le Marc 16, lorsque Marie de Magdala va au sépulcre. Elle s'attend à voir quelqu'un dans ce sépulcre. Qu'est-ce qu'il est dit ? Le soleil se levait. Ah oui, le soleil du matin de la résurrection, du matin de Pâques. Et ça nous concerne, j'y reviendrai tout à l'heure peut-être, dans ce sens où nous vivons aussi cette espérance. L'espérance vivante, nous dit l'apôtre Pierre. Qu'est-ce que ça veut dire, une espérance vivante ? Eh bien, c'est l'espérance née au matin de Pâques, par la résurrection de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est mort, il a été enseveli, mais en même temps, il est victorieux de la mort, il est sorti victorieux, et il peut maintenant dire, eh bien oui, délivre-moi des cornes des buffles, j'ai été sauvé. Il le dira, tout est accompli, et maintenant je publierai ton nom à mes frères. Mais je crois que c'est la force du christianisme, encore, qui doit nous encourager. Nous, parce que nous vivons dans ce temps, dans les versets 23, 24, 25, nous vivons ce temps où il est dit « Je te célébrerai au milieu de l'assemblée, au milieu de l'Église qui naîtra grâce à la résurrection. » Nous rejoignons la fin des évangiles, nous rejoignons le livre des actes qui va nous parler de quelque chose de puissant, de cette grâce qui va inonder d'abord Israël, c'est pour ça qu'il est parlé de Jacob ici, ou d'Israël, mais qui va inonder le monde entier, tout peuple, toute tribu de langue et de nation, nous dit encore une fois Apocalypse 5. Et je crois que c'est toute la beauté, toute la force de ce psaume, c'est de nous aider à entrer quelque peu dans les souffrances de Jésus-Christ, mais de voir aussi, dans les versets 23 à 25, de voir la résurrection, de voir la victoire de celui qui nous donne la victoire, qui nous dit « parce que moi je vis, vous vivrez aussi ». C'est toute la force. Si je ne crois pas, 1 Corinthiens 15 va nous le dire, si vous ne croyez pas sur la résurrection, eh bien, vous croyez dans le vide. C'est ce qu'il nous dit. Et je crois que c'est toute la beauté et toute la force, encore une fois, de ce texte. C'est de nous amener encore devant celui qui est la victoire, qui est sorti vainqueur. Et on pourrait citer plusieurs exemples, plusieurs évangiles, mais je veux maintenir quand même, je crois que c'était une demi-heure, m'avait dit Viviane. Hein, bon, d'accord. Donc, faut que je reste dans mon cadre, dans mon timing. Et j'arrive maintenant presque, après avoir vu la finitude d'un David, après avoir vu la finitude de notre Seigneur Jésus dans ce qu'il a vécu, nous voyons maintenant dans cette aurore cette victoire, ce qui va nous conduire à le connaître dans sa grâce, dans son amour, dans ce salut, cette dynamique. L'évangile est une dynamique pour nous sauver, pour sauver les hommes, Israël d'abord, mais toutes les nations. Et puis nous arrivons à la plénitude. Oui, il y a eu infinitude, il y a les certitudes que nous avons ici, où nous sommes invités par des impératifs à nous, la postérité de Jacob, nous sommes aussi à quelque part descendants de Jacob, de glorifier, de trembler devant lui, vous tous, postérité, etc., car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. Bref, c'est des choses qui nous concernent. Et nous arrivons à la dernière partie, à la plénitude. Après l'infinitude, après les certitudes qui nous concernent, nous, il y a cette plénitude. Et là, nous sommes dans le futur. Et c'est toute la force, je crois, de ce psaume, c'est de nous faire entrer dans cette nuit des souffrances de Jésus-Christ pour mieux nous faire comprendre qu'il y a au-delà l'aurore et qu'il y a en plus un futur, un avenir. Et ça, c'est toute l'espérance chrétienne. Nous avons une espérance en Jésus-Christ et par Jésus-Christ et devant Jésus-Christ. Et ce texte nous approche, bien sûr, de celui qui, un jour, toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel, toutes les familles des plaies. Nous sommes là dans un futur qui se réalisera et nous pouvons bien comprendre. Je rejoins peut-être Philippiens 2 qui nous dit que Jésus-Christ, oui, il s'est anéanti lui-même, il s'est abaissé lui-même jusqu'à la croix, mais Dieu lui a donné un nom, au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes, terrestres et infernaux. Encore une fois, on rejoint un peu ce que nous dit ce psaume. Un jour, tout genou ploiera devant celui qui est au-delà et au-dessus. Et pour terminer ma conclusion, je vous l'ai dit, c'est qu'il y ait aussi, au-delà de ce que nous avons pu voir ou pu succinctement dire, qu'il y ait « c'est pour moi et c'est pour toi ». Je trouve très beau ce logo qui me convient bien à moi et qu'il vous convienne à chacun. Ne sommes-nous pas invités par un auteur de la Bible, Jérémie, pour ne pas le nommer, qui disait « n'est-ce rien pour vous tous qui passez par le chemin ?» Contemplez et voyez s'il est une douleur comme ma douleur. Alors évidemment, on est là dans une prophétie, mais on peut en faire une application pratique pour nous. C'est pour moi et c'est pour toi. N'est-ce rien pour toi qui passe par le chemin ? Nous passons par le chemin, vous et moi. Nous sommes encore vivants, nous sommes sur la terre et... À cet égard, je ne résiste pas, parce qu'il vient à l'esprit maintenant, dans Ésaïe 40 au verset 8, il est parlé que toute chair est comme l'herbe. Vous voyez la finitude humaine, elle est là. Toute chair est comme l'herbe et comme la beauté de la fleur des champs. Ça, c'est notre finitude. Mais voilà, l'herbe se dessèche, la fleur se fane. Oui, un jour nous mourrons. Mais la parole de notre Dieu demeure à toujours. C'est puissant. La parole de Dieu demeure à toujours. Je rejoins quelque part le pasteur Maurice Ray qui avait eu cette belle phrase, la Bible est un champ de blé. Et nous avons tous besoin de pain. J'aime bien, je l'ai souvent rappelé parce que, oui, la Bible est un champ de blé. Et nous avons tous besoin de pain. Pour moi et pour toi. Nous sommes la réponse à ce pourquoi du verset 2. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Bien oui, chacun peut se le dire. Chacun doit se le répéter. C'est à cause de moi que Jésus-Christ sur la croix a dû s'exprimer. Pourquoi, mon Dieu, m'as-tu abandonné ? Et ça nous amène, je crois, dans l'adoration, dans la louange à celui qui est notre sauveur, notre libérateur, notre rédempteur. Pour moi, les psaumes à ce niveau-là, le psaume 22, entre autres, c'est comme un mot croisé, parce qu'il nous rejoint, c'est un mot croisé, il nous rejoint dans nos horizontalités, dans tout ce qui fait notre vie, avec ses hauts, avec ses bas, avec ses joies, avec ses pleurs, avec ses questionnements, peut-être quelquefois avec ses doutes, c'est un mot croisé. Mais nous sommes rejoints, nous avons la verticalité en même temps. Et Dieu veuille que cela, dans ma vie, dans nos vies, c'est pour moi et pour toi, que cela corresponde. le mot croisé des psaumes. C'est toute la beauté des psaumes qu'on chante depuis des siècles. Et ce n'est pas étonnant si les psaumes sont proches de nous et ont souvent été rappelés. Alors oui, pour moi et pour vous, pour nous tous, il y a finitude. Et j'aime quand même bien le rappeler aussi, cette finitude. Nous sommes des prisonniers quelque part. On a un texte qui nous dit dans Zacharie que nous sommes prisonniers de l'espérance. J'aime bien le mot prisonnier parce que nous sommes tous prisonniers du temps qui passe. Nous sommes tous prisonniers de notre santé, nous sommes peut-être prisonniers de nos questionnements, peut-être de nos difficultés professionnelles, peut-être familiales, peut-être de couple, que sais-je. Oui, oui, c'est toute notre finitude. Mais en même temps, nous avons des certitudes. Et je prendrai encore cette, puisque c'est ma conclusion, c'est pour moi et c'est pour toi, je prendrai cette conjugaison que j'aime bien. Oublie ton passé, qu'il soit simple, composé ou imparfait. Participe à ton présent pour que ton futur soit plus que parfait. Participe à ton présent. Ça veut dire quoi, participer à son présent? C'est participer à une vie dans la communion et dans la présence de Jésus-Christ. Dieu, quand il a créé l'homme, il l'a fait à sa ressemblance. Pourquoi? Pour avoir une relation avec lui. Et je crois que nous avons là cette injonction qui nous est donnée. Eh bien oui, participe à ton présent, vis avec Dieu, vis avec Jésus-Christ pour avoir cette relation avec lui, cette relation qu'il cherche. Guillaume Farel, je terminerai par là puisque je viens de Neuchâtel et que depuis ma terrasse je vois la statue de Guillaume Farel, avec toujours cette inscription « Toute écriture est inspirée de Dieu », je terminerai avec cette phrase qu'il avait eue, qui est belle. « Que ta parole flamboie !» Eh bien oui, qu'elle flamboie, qu'elle flamboie dans mon cœur, c'est pour moi. Qu'elle flamboie dans vos cœurs, c'est pour toi. Qu'elle flamboie dans cette église, qu'elle flamboie dans toutes nos églises, et peut-être aussi qu'elle flamboie dans cette société qui en a bien besoin. Merci.